le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Je suis aujourd'hui en compagnie de Joachim Aubourg, Joachim Rérol et Nathan Vauquer. On va aujourd'hui vous parler des violences policières. Dans un premier temps, je vais vous demander à tous les trois, qu'est-ce que c'est qu'une violence policière? Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et aux auditrices en quoi ça consiste?
C'est une violence qui est exercée par la police, chargée du maintien de l'ordre, et qui n'est pas proportionnée ni nécessaire, qui peut avoir pour but de faire peur un peu et de calmer les éventuelles velléités des gens.
Et surtout dans l'exercice de sa fonction. Ouais. Un policier le fait en dehors, c'est plus la violence policière, c'est juste la violence d'un individu policier.
Et de quelle nature ces violences?
Ouais, elles peuvent être multiples, c'est-à-dire que ça peut être violence physique, donc ouais, des coups, ça peut être une violence de la parole, des insultes,
l'humiliation,
psychologique aussi, parce que quand on subit un traumatisme, parce que ça peut engendrer des traumatismes, ça entraîne des séquelles psychologiques, et du coup ça entraîne de la violence psychologique, parce que les gens après il faut qu'ils se reconstruisent.
Ok, du coup, c'est dans quel cadre que on peut être confronté à des violences policières?
Dès qu'on rencontre un policier.
Assez radical.
En théorie.
Potentiellement. Hein.
Potentiellement, c'est-à-dire que...
Ouais, c'est plutôt l'espace public, quoi, on va dire.
Voilà.
Ça peut arriver chez toi aussi.
C'est plus rare.
C'est plus rare, je pense, ça existe aussi.
Et donc, du coup, c'est spécifique... Enfin, là, dans vos mots, j'ai l'impression que c'est spécifique quand même aux manifestations
Non,
peut-être au contrôle de police.
Ouais, contrôle de police, manifestation, patrouille de police. En fait, dès que tu croises un policier, théoriquement, tu es en danger, mais pas pour la fonction de policier, parce que c'est quand même un individu armé, qui possède plusieurs armes sur lui, létales, et qui est mal formé à leur usage, du moins, on va dire psychologiquement. Donc, en théorie, tu es en danger. De toute façon, face à quelqu'un qui a une arme, tu es en danger. Et là, d'autant plus.
Et surtout que c'est un peu triste à dire, mais ça dépend des personnes, quoi. Tout le monde n'est pas aussi visé sur les violences policières.
Ouais, on n'est pas tous égaux face à la police. Je tiens à préciser
Exactement.
Que là, on est tous blancs.
Bon, on est tous blancs.
Donc, déjà, on a moins cette expérience. On n'a pas l'expérience du racisme, en tout cas, avec la police. Mais du coup, vous avez peur de la police? Parce que là, tu es en train de me dire que on peut être confronté à de la violence, qu'on est en danger dès qu'on peut croiser un policier, qu'on est potentiellement en danger quand on croise un policier. Est-ce que ça vous fait peur, vous?
Oui. Parce qu'on aura toujours tort face à un policier. On n'est pas sur un rang d'égalité. Moi, c'est surtout cette inégalité qui me fait peur. Quoi que je dise... Le policier aura toujours raison. S'il veut avoir raison, il aura raison. Et ma parole contre celle d'un policier, elle vaut rien.
Parce qu'il est assermenté. Le problème, c'est que ce serment ne repose sur rien. Et c'est le problème d'un serment. C'est comme si moi, je disais à n'importe qui, passe-moi ton argent, je te promets, je te le rends. C'est basé sur la confiance. Et à partir du moment... Et en fait, c'est la confiance que l'État a en ses policiers et que le peuple a en ses policiers. Mais du coup, il y a forcément un sentiment d'injustice parce que toi, tu n'es pas assermenté. Et même si ta parole... est en théorie égale à celle d'un policier, elle ne l'est plus à ce moment-là, et ça se base sur rien.
D'ailleurs, c'est encore quelque chose qui va changer avec la loi sécurité globale, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Il y a beaucoup de manifestations contre la loi sécurité globale tous les samedis en ce moment, et Amnesty International vous invite à y participer. Nous, on y participe en tout cas. Et effectivement, cette loi de sécurité globale, elle indique également que devant une cour de justice, les policiers et les policières auront plus de légitimité, en tout cas leur parole aura plus de légitimité, elle aura plus de poids, en fait, que la partie civile, encore plus que ce qui est le cas en ce moment. Et d'ailleurs, est-ce que vous participez aux manifestations qui ont lieu le samedi?
Personnellement, non.
Rarement.
Ouais, moi je les fais toutes en général. Que manif.
Et est-ce que... Alors, pourquoi est-ce que vous y alliez pas, Nathan et Joachim?
Pour plusieurs raisons. Alors, la première, qui est vraiment en raccord avec le thème du sujet, c'est la peur des violences policières. Okay. J'ai pas envie de perdre un œil, de me faire gazer. Après, une deuxième, plus personnelle, je trouve que ça, moi, ça n'a pas énormément d'intérêt, ces manifestations. Ça a prouvé un peu leur inefficacité, vu le nombre de manifestations qu'il y a eu et les changements directement en les revendications, ces manifestations qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'impact.
C'est même l'invertissement qui s'est passé. Plus il y a eu de manifestations, j'ai l'impression que plus la répression s'est durcie, ce qui est logique et qui n'est pas la faute des manifestations, qui est totalement la responsabilité du gouvernement et des pouvoirs publics, mais quand même. Mais après, j'irais dire que la participation aux manifestations, elle se conditionne à la peur, ouais. Franchement à la peur, ouais. Parce que moi j'étais à la première manifestation à Paris des Gilets jaunes, là où ça a mal tourné, place de l'Étoile. J'y avais participé au début et après je suis allé travailler et j'ai traversé Paris et j'ai dû traverser en partie Paris à pied parce que tout était bloqué. Et ce que j'ai vu, c'était, j'avais jamais vu une scène aussi violente de ma vie. En tout cas, j'ai vu des choses violentes, mais là j'ai vu des trucs que j'aurais pas pensé voir, en tout cas même en France en fait. Peut-être que j'étais naïf, mais c'était extrêmement violent. Et des deux côtés, mais sauf qu'il y en a un qui est censé être un professionnel, qui est censé maîtriser sa violence, et l'autre qui est censé justement l'exprimer, parce que c'est sa fonction de peuple, de citoyen.
Du coup, tu penses que la violence de la part du peuple, elle est justifiée ?
Elle est justifiée, oui. Parce que... le peuple, c'est pas sa vocation d'être violent. Personne, c'est le métier de personne d'être violent. C'est rare, hein. Sauf certains cas particuliers, mais la plupart des gens, ils sont pas une envie folle d'aller taper des gens, d'aller renverser des barrières, de balancer des trucs sur les gens. Ils ont pas que ça à faire. Ils ont une vie, ils ont des gens à aimer, ils ont un travail à faire. Ils ont autre chose. Et quand ils sont violents, c'est qu'il y a une raison et donc cette raison en devient légitime.
Et du coup, toi, Joachim, qui va dans les manifestations, Est-ce que tu vois de la violence de la part des manifestants ou de la part de la police? Comment ça se passe?
Bah, en général, les manifestations à Montpellier, on n'est pas extrêmement nombreux, donc il y a assez peu de violence qui éclate en général de la part des manifestations. Après, souvent, tu as une réponse soit parce que la manifestation est censée se terminer, donc là, les policiers déclenchent les hostilités en gazant à peu près tous les lieux publics, qu'il y ait des enfants ou pas, ça c'est déjà vu. Et sinon, c'est vrai que souvent c'est en réponse à quelqu'un qui va acheter, ça peut être une canette ou je ne sais quoi, ou un tag. Ou des fois sans aucune raison, c'est déjà aussi arrivé, mais c'est quand même assez rare. Et voilà quoi. Mais non, la violence, elle est. Enfin, en tout cas, ça dépend de ce qu'on appelle violence, mais il y a rarement de la violence contre des personnes, c'est plus contre l'immobilier, contre voilà, tout ce qui est
des symboles
du capitalisme en fait, et que beaucoup de groupes, enfin c'est une manière de revendiquer, de mise en action politique de leurs idées, mais c'est rare, enfin à part voilà, lancer des choses sur les policiers, des fois ça arrive, mais c'est pas systématique, et honnêtement avec les politiques qui lancent ça va, je sais même pas si c'est une vocation vraiment à blesser le policier, si ce n'est juste à le titiller un petit peu, quoi.
C'est une sorte de petite provocation, quoi.
Voilà, c'est ça. Une réponse finalement à la violence aussi que les manifestations se prennent, hein, parce que moi j'ai déjà fait des manifestations et plusieurs fois, enfin, une fois je suis juste tombé pendant une charge et les policiers ont essayé de m'intimider, de me mettre par terre, voilà, sans rien de mon. Enfin, c'était pas du tout justifié. Et une autre fois, bah là, le 16, j'ai terminé au poste quand même. Pareil, c'était la manifestation était festive, là pour le coup il n'y avait aucun projectile, c'est en m'arrêtant que ça commence un peu à s'agiter, donc il y a ça aussi, quand on arrête des gens, forcément les manifestants répondent et on sont un peu dans la compréhension de la chose. Et moi,
surtout quand on arrête des gens pour rien.
Ouais, voilà, enfin je veux dire, j'étais pas du tout violent, j'étais dos à eux, j'ai même pas eu le temps de voir ce qui m'arrivait, et on m'a reproché en fait des faits, donc on m'a reproché d'avoir été des violences volontaires contre personne de l'autorité publique. Et j'ai entraîné 0 jour d'ITT, donc c'est quand même assez rigolo, mais je fais 23 heures de garde à vue pour je sais pas pourquoi, et ça c'est quand même un peu bizarre, quoi. Il y a vraiment un climat de peur aussi qui est instauré par ça, quoi. Moi personnellement, je continue à faire les manifs, mais c'est vrai que t'as pas envie de faire une deuxième garde à vue, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Aujourd'hui, alors après, pas toutes les polices, hein, parce qu'il faut bien distinguer les forces de répression, des polices judiciaires, des brigades antidrogue et ainsi de suite, hein, donc je mets pas toutes les polices dans le même sac, mais effectivement, les policiers qui sont là pour des contrôles et pour encadrer, parce que normalement c'est leur but, encadrer des manifestations, ils ont un potentiel qui fait que la peur elle est présente. Et surtout, moi ce que j'ai l'impression, c'est que ça devient, c'est comme une milice privée en fait. C'est-à-dire que je suis déjà allé dans des pays qui sont en dictature.
Mmh.
Où,
quel pays?
Par exemple la Thaïlande, le Maroc et d'autres pays. Et j'ai été confronté des fois à des policiers ou à des forces armées, pas sur moi, hein, mais que j'ai vu, et sur des petites choses, hein, des contrôles de police, des arrestations qui se passent devant toi parce que la vie se passe. Et ce que se permettent les policiers aujourd'hui en France est l'égal de ce qui se permet ailleurs. Après, effectivement, il n'y a pas encore ou peu de torture, de ce genre de choses, mais bon, moi j'ai déjà vu un policier taper la tête de quelqu'un contre le montant de la voiture pour le plaisir. Mmh.
Alors, faut savoir que la définition de la torture qui est donnée par les Nations Unies, elle est très très large et elle implique que la torture, c'est une violence psychologique ou physique qui est infligée par une personne dépositaire de l'autorité publique ou de l'autorité judiciaire. C'est n'importe quelle violence qui a pour but de intimider ou soutirer des informations. Du coup, on peut se poser la question de savoir si les violences policières telles qu'elles sont perpétrées en France aujourd'hui, est-ce que c'est de la torture? Par exemple, le taser ou la matraque ou les coups, tout simplement, ça pourrait être considéré comme de la torture selon les Nations Unies, étant donné que c'est en partie pour intimider des gens.
En théorie, oui. Mais en théorie aussi non, parce qu'il y a une question de pacte social, et d'après la définition du pacte social qu'il y a en France, la violence de l'État, elle est toujours légitime. Et vu que les policiers représentent l'État, c'est toujours légitime, donc théoriquement en France, ça peut pas être de la torture, mais après c'est une question de définition, et tout pays ou organisation a une définition différente. Ce qui pose problème, c'est qu'à chaque fois, comme disait Joachim tout à l'heure, t'as des gens qui sont blessés, des gens qui ont peur, et que si on est tous citoyens, tu peux pas imposer des choses par la violence, et tu peux pas prétendre à des pressions, surtout quand les violences des manifestants ou même des gens qui sont juste contrôlés, hein, parce que ça arrive souvent aussi, hein, c'est pas eux qui font le premier pas de la violence. C'est ça qui pose problème.
Après, surtout, je trouve ce qui est inquiétant dans les violences policières, en fait, hein, même en France, c'est bon qu'il y ait des violences policières parce qu'ils sont exercistes. Enfin, bref, le contexte aussi joue, mais ce qui est compliqué à comprendre, c'est que aussi les violences donnent aussi peu de. Quand elles sont illégitimes et qu'il y a des vidéos qui tournent, qu'il y ait une réponse judiciaire qui ne soit pas du tout, qui soit pas du tout là. Quoi. Il y a assez peu de policiers qui sont condamnés par rapport aux plaintes qui sont déposées contre eux.
Effectivement, il y a pas mal d'impunité en France pour les policiers.
Et surtout, en fait, le truc, c'est que, une fois que t'as la violence, bon, tu te fais arrêter en plus, mais ta parole n'est pas audible aussi par rapport aux policiers, et c'est ça qui fait peur, en fait. C'est qu'effectivement, bon, tu peux te faire taper dessus, tu peux effectivement être blessé, voire très grièvement blessé, voire te faire tuer dans des cas extrêmes, mais le problème, c'est que l'État, en fait, couvre totalement ces violences, et c'est là que ça devient un peu systémique, finalement, c'est que ces violences sont couvertes, d'une part, par l'État, par l'institution qui est l'IGPN, qui est elle-même raccordée à la police. Alors ça, c'est quand même exceptionnel. Et d'autre part, voilà, il y a une réponse judiciaire, mais contre ces gens qui sont pris des violences policières, mais qui en plus vont avoir une réponse judiciaire complètement qui est pas compréhensible, en fait. Des fois, tu peux lancer une bouteille qui va même pas arriver sur quelqu'un, qui va arriver à 5 mètres, et parce que ta vie, t'as fait ça, bah tu vas avoir 2 mois de sursis, 6 mois d'interdiction d'aller manifester. Mais pourquoi entretenir cette liberté? Bah franchement, j'attends une réponse. Quoi.
Et à l'inverse, quand ils sont condamnés, il y a eu plusieurs cas, mais j'en ai un qui me vient en tête. Premièrement, c'est une jeune fille à Bordeaux qui s'est pris un coup de flashball à 1,50 m de distance. Elle n'a plus de mâchoire, elle n'a plus de dents. Voilà. Elle a un autre âge à peu près, entre 20 et 25 ans, je ne me souviens plus exactement. Elle a reçu en tout et pour tout comme compensation 1 350 €.
Ah oui, d'accord.
Et donc, tu te rends compte que même quand ils sont condamnés, les rares fois où il y a une condamnation due à la violence, il y a une disproportion du préjudice C'est-à-dire que, comme disait Joachim tout à l'heure, dès qu'il y a un étalage de violence qui est fait par un manifestant, une personne qui n'est pas policier, ben, tu touches un policier, tu peux prendre 6 mois de prison. Un policier te mutile, parce que c'est une mutilation, il ne sera même pas démis de ses fonctions. Il sera au pire suspendu, la plupart du temps. Et c'est-à-dire que, du coup, est-ce qu'on, n'étant pas sur un pied d'égalité, je pense que ça encourage énormément de gens à se dire que la police, c'est une milice privée, que ça ne, elle a même plus de fonction de police, qu'elle a juste une fonction de répression, et qu'au final, si on est violent avec les policiers, c'est pas un problème. Et, alors que toute violence est problématique. Et du coup, c'est un cercle vicieux qui elle-même, lui-même encourage la violence et qui n'est juste là pour moi que pour masquer d'autres problèmes gouvernementaux. Parce que ça fait du bruit, donc on en parle, et au final, vu que c'est eux qui ont raison.
Là, du coup, vous êtes en train de parler plus d'une violence d'État, une violence juridique, au-delà d'une violence physique. Est-ce que vous pensez que l'État en France est violent ?
Bien sûr, parce qu'après, c'est le propre d'un État aussi, des violences. C'est-à-dire que, forcément, c'est lui qui doit faire respecter l'ordre, entre guillemets, et donc, en l'occurrence, la réponse générale qu'il trouve, c'est la violence, donc c'est le maintien de l'ordre, ce qui est peu, enfin, je veux dire, c'est compréhensible aussi, t'as pas non plus envie qu'il se passe n'importe quoi dans la rue, il faut bien qu'il y ait des personnes qui soient là pour surveiller un peu tout ça et faire en sorte que normalement nous on soit pas blessés, mais le problème c'est qu'ils sont pas là pour notre sécurité, enfin, c'est en tout cas ce qui ressort de plus en plus, c'est que c'est assez documenté dans pas mal de journaux, dans pas mal d'enquêtes et tout ça, et que finalement elles sont plus là pour nous protéger l'État, mais pour la police est là pour protéger l'État lui-même en fait. Et que l'État est violent, mais que du coup les ripostes, enfin, en tout cas les manifestations, ce qui est un peu voilà, les manifestations,
c'est le moyen contre
c'est le moyen d'expression qui t'as un peu d'être pas d'accord avec en tout cas le gouvernement et l'État en général, et que ça voilà, que ça fonctionne pas.
Aussi, ce que je trouve très injuste, c'est que souvent les gens manifestent parce qu'ils ressentent même une violence dans la vie sociale, qui est souvent due à l'État, par les conditions de vie créé pas que par l'État, mais en partie par l'État, du coup eux-mêmes vont se plaindre. Et en France, le moyen, on va dire, culturel de faire ça, c'est de manifester, dans plein d'autres endroits aussi, et en fait, quand ils veulent bien exprimer qu'ils ressentent de la violence de la part de l'État, l'État leur dit très bien, bah, on vous envoie de la violence.
Pour vous, du coup, est-ce que cette réponse-là, elle est justifiée de la part de l'État ? Parce que c'est vrai qu'on a des manifestations en France de plus en plus. Est-ce que c'est justifié ? À quel moment est-ce qu'on peut recourir à la force en cas de manifestation ?
Quand c'est pour protéger des personnes, en fait. Que ce soit les policiers, s'ils sont effectivement en grand danger, et en général, ils n'ont plus des blessures extravagantes. Mais oui, après, elle paraît justifiée quelque part, la violence, si c'est pour protéger les gens. Après, si c'est pour protéger une vitrine, ça peut se discuter, mais est-ce que ça mérite un coup de matraque parce qu'on a vu quelqu'un casser une vitrine, donc on pense que c'est lui, que 5 minutes plus tard on va venir le taper pour essayer, un peu comme une punition, mais ils sont passés par une justice, quoi. C'est un peu expéditif. Et d'ailleurs, ce qui se passe ici, là, on est tous blancs, tout ça, mais c'était un problème qui était d'abord dans les cités, et comme maintenant ça se la violence se répand un peu partout dans les manifestations, bah les gens sont beaucoup plus choqués, ça prend un ampleur maintenant dans les journaux et dans le débat public, qui est encore inédit, et justement parce que maintenant c'est plus quand on est dans les cités ou avec cet aspect où on a toujours l'impression que c'est des racailles, des machins, les émeutes, où là c'était très violent, donc ça justifiait une violence très grande, mais maintenant c'est partout en fait, et donc c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un souci, quoi.
Alors là, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis c'est partout. Pour les blancs, c'est juste dans les manifestations. Si un blanc va pas dans les manifestations, il n'aura pas de violence policière, du coup faut on peut quand même pas se comparer.
Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que du coup, tout le monde, elle est plus visible par tous en fait.
Oui, elle est plus visible
géographiquement quand on est dans les banlieues.
Ouais. Voilà, c'est vrai
parce que dans les banlieues, c'est encore plus violent et du matin au soir, on peut imaginer si on n'a pas vécu.
Effectivement, nous en plus à Amnesty, ça fait bien 10 ans qu'on documente les violences policières en France. Et voilà, ça fait des années qu'on essaye d'alerter sur le sujet et ça avait jamais fait autant de bruit que maintenant, parce qu'effectivement maintenant, c'est un peu tout un chacun qui peut être confronté à de la violence policière. À partir du moment où tu vas dans une manifestation, t'es à peu près sûr d'être confronté à de la violence.
Ce qui est terrible aussi, c'est que c'est comme disait Joachim Aubourg avant, c'est qu'il y a une vraie tradition de la violence en banlieue par les forces de l'ordre. Qui aujourd'hui s'est répandu aux manifestations à peu près à tout le monde, mais c'est que pendant très longtemps, dans moi ce que j'ai vu, en tout cas dans la représentation que j'en avais à la télé, dans les journaux, même auprès des membres de ma famille, alors que j'habite à 500 mètres d'une cité, j'ai grandi avec la plupart des gens avec qui j'ai grandi viennent d'une cité. Et bizarrement, dans ma tête, quand j'y réfléchis, je me disais à l'époque, mais c'est normal qu'ils fassent ça, il y a des émeutes, il y a des violences, et la manière dont était traité le sujet à l'époque me faisait penser, c'est la faute des émeutiers en fait, c'est la faute de ceux qui ne sont pas contents de base. Et aujourd'hui, en le vivant moi-même personnellement, je comprends que il y a mensonge et que ils pensent pouvoir réitérer les mensonges qui sortent depuis 30 ans pour les banlieues, mais cette fois-ci à l'échelle nationale.
Oui, parce que c'est vrai qu'on justifie en France les violences policières par le fait que les manifestants, les manifestantes ou les émeutes dans les cités, on justifie donc ces violences par le fait que ce sont ces personnes-là qui ont fait quelque chose de mal au départ, en fait, et que la réponse de la violence, c'est la seule possible pour pouvoir gérer la situation. Alors que à l'international, il y a plein d'autres façons en fait de gérer des émeutes ou gérer des manifestations. Par exemple, en Allemagne, les policiers, les policières, il y a une certaine brigade qui est en fait au sein de la manifestation, qui porte des gilets jaunes d'ailleurs. ça m'avait fait beaucoup rire. Et donc, ces personnes-là sont là pour discuter avec les manifestants, les manifestantes, pour leur demander comment est-ce que ça se passe, pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils revendiquent, et pour faire en sorte de créer un lien finalement avec la population pour que ça se passe bien. Et surtout, ils n'ont pas le droit d'utiliser la violence si c'est pas pour protéger effectivement la population. En Belgique, la formation des policiers et des policières, si je dis pas de bêtises, cette formation, elle comprend le fait de ne pas utiliser de gaz lacrymogène ou de violence à partir du moment où c'est juste un petit groupe de personnes qui va mettre un peu le bordel. On préfère laisser filer ces personnes-là plutôt que de mettre en danger tout le cortège, en fait. De la même façon qu'on ne veut pas mettre en danger d'autres personnes à côté du cortège, des personnes qui ne manifestent pas. Donc effectivement, dans le monde, il y a plein de façons différentes de gérer la violence. Alors il y a pire que la France, évidemment, mais il y a aussi beaucoup mieux.
Oui, justement, sur ce sujet, je voulais dire qu'en Australie, il y a un rapport très différent avec la police qu'il y a en France. Il y a du respect vraiment des deux côtés. Les gens respectent les policiers respectent les gens. Il n'y a pas du tout cette haine anti-flic qu'il y a ici. Pourtant, ils sont tous armés, hein. Mais dans le respect, du coup, il y a vraiment deux exemples intéressants. Donc le premier, c'est lors des contrôles de voitures. Mmh. Les policiers ont une GoPro fixée sur eux pour tout filmer. Et comme ça, si on n'est pas d'accord avec ce qui a été dit, si on est victime de violence, le policier a l'obligation de montrer ce qui a filmé et donc de tout l'échange est filmé par le policier. Mmh. Et peut être sorti. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, je sais pas s'ils font ça dans toutes les villes, mais j'ai eu l'occasion de voir à Cairns, dans le nord, donc c'est une petite ville, des policiers la nuit qui font des patrouilles, et quand ils voient des gens ivres qui se battent, ils s'arrêtent, ils leur demandent où ils habitent, ils les raccompagnent chez eux pour éviter qu'il y ait des problèmes
ah, ouais, d'accord. Ah, c'est...
Qui se mettent en danger eux ou les autres.
Ah mais effectivement du coup là la police est vraiment là.
Là la police est là pour
la
aider.
Population.
Bon, quand elle voit quelqu'un de ivre, lui le réprimander ou lui mettre un signe de dégrisement, elle va le raccompagner jusqu'à chez lui pour éviter qu'il se mette en danger et qu'il mette en danger quelqu'un d'autre. Donc là, il y a vraiment le rôle d'aider la population et pas de réprimer.
Mais donc, du coup, on voit bien qu'à l'international, c'est assez différent. Et nous, on espère à Amnesty International que les violences policières en France vont diminuer. Et c'est ce qu'on demande de plus en plus. Et par rapport à la loi sécurité globale, à Amnesty International, évidemment, on est contre cette loi, les articles 22 et 24 précisément. Qui empêche d'ailleurs de filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. C'est à eux de filmer ce qui se passe normalement, mais c'est vrai que vu qu'on n'a plus trop confiance en la police, c'est assez difficile de se dire que les actes vont réellement être filmés. Sur ce, on va vous laisser et on vous souhaite une très bonne journée sur Radio FM+, et à bientôt avec Amnesty International.